Bonjour Laurent, ça y est.
Bonjour Monsieur Rivière.
C'était une interview inédite, au moins sur le ton que s'est prêté Emmanuel Macron hier soir sur BFM et Mediapart. Un entretien très pugnace, voire agressif parfois, qui a ressemblé par moments plus à un débat qu'à une interview. Qu'est-ce que vous en avez pensé, au moins sur la forme déjà ?
Alors sur la forme, effectivement, on a eu l'impression d'assister un peu à une comédie politique avec toute une mise en scène de la descente d'escalier qui est assez troublante et américanisée. Après, les journalistes ont posé les questions très clairement, mais le président de la République a été soit brouillon ou soit justement a feint la sincérité, mais n'a pas été réellement à la hauteur des réponses que les Français attendaient sur les sujets qui comptent pour eux aujourd'hui.
Et sur le ton, Christian Estrosi, par exemple, dit qu'il y a eu une caricature d'interview, car en cherchant à abaisser la fonction présidentielle, les journalistes abaissent en réalité la fonction de journaliste.
Si je ne m'abuse, c'est le président de la République qui a choisi la forme, puisque ça l'amuse en fait. Il a essayé de faire différents formats, je pense qu'il est dans un jeu de rôle, un jeu de communication, on ne va pas l'en plaindre. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement les Français n'ont pas obtenu de réponse et que rien n'a changé pour aujourd'hui, rien n'a changé sur le pouvoir d'achat, rien n'a changé sur l'immigration ou sur la lutte contre le terrorisme. Et j'imagine qu'on va peut-être revenir dans les détails.
Oui. Un président de la République, pour vous, peut accepter qu'on lui parle sur ce ton, comme par exemple l'un des deux journalistes, Jean-Jacques Bourdin pour ne pas le citer, lui demande s'il n'est pas dans une illusion puérile de toute puissance.
On vous parle comme vous vous laissez parler, en fait. Ouais. Donc je pense que, puisqu'il a voulu jouer à ce jeu de catch américanisé, bah, il a eu le style qu'il a... Vous savez, il a choisi les journalistes, il connaît le franc-parler des uns et des autres, donc il s'est mis dans cette situation. C'était un moyen aussi pour lui de privilégier la forme et pas le fond, et de ne pas répondre sur le fond, parce que c'est bien là le problème, c'est le fond de la politique qu'il mène.
Alors sur le fond, c'est par les bombardements en Syrie qu'a commencé cet entretien. Nous avons, a dit Emmanuel Macron, la pleine légitimité internationale pour intervenir en Syrie comme nous l'avons fait. Est-ce que vous avez été convaincu par ces arguments ?
Il n'a pas la légitimité. Il n'avait pas, la France n'avait pas la légitimité internationale. Mais au-delà de ça, vous savez, cette intervention, c'est une goutte de violence supplémentaire dans un océan de misère. Ajouter de la guerre à la guerre... Quelle est la stratégie ? La diplomatie, c'est pas
punir.
Il dit
que ça ne relève pas de la guerre, qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre à la Syrie, que ça n'est pas contre Bachar el-Assad, mais qu'on a été détruire des installations chimiques.
C'est contre personne, bien sûr. Alors déjà, en plus, sur l'efficacité de ces frappes, de nombreux spécialistes mettent en doute la capacité de détruire, s'il y en a. Je vais tout mettre au conditionnel, parce que contrairement à beaucoup, je ne suis pas devenue une spécialiste de guerre en 48 heures. J'ai vu que sur Twitter, tout le monde se répandait à faire une analyse spécifique sur le sujet. Mais quand on écoute et nombreux de vos confrères qui sont vraiment sur le terrain, pas des journalistes qui sont derrière l'ordinateur à Paris, eux disent que de toute façon, s'il y a réserve d'armes chimiques, souvent elles sont enterrées, elles sont enfouies et éventuellement tout le monde a eu le temps de mettre les choses à l'abri. Donc je pense que ça me désole de voir cette approche d'un sujet aussi grave et ça me désole de voir que le président de la République était si content d'avoir joué les gros bras face à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est le meilleur moyen de rentrer dans une discussion diplomatique avec Vladimir Poutine ? Je ne pense pas.
Sur l'un des sujets qui a été largement évoqué ces derniers jours, et notamment lors de sa première interview de la semaine jeudi dernier sur TF1, l'augmentation de la CSG pour une partie des retraités, Emmanuel Macron ne dévie pas de sa ligne. J'assume, a-t-il répété hier soir, j'assume cet effort qui a été demandé aux retraités, mais ça a le mérite d'être clair au moins.
Vous savez, ce qui me touche, Monsieur Rivière, dans sa façon d'assumer, c'est qu'en fait, oui, il assume, mais pourquoi il assume ? Parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'est de vivre aujourd'hui avec 1 000 euros par mois. Parce que lorsque l'on assume de prendre 444 euros par an à des gens qui gagnent 1 000 euros par mois, eh bien, il faut vraiment être complètement déconnecté de la réalité des Français. Et c'est ça qui est désolant, c'est sa déconnexion. Alors, il peut faire tous les spectacles et les comédies de communication qu'il veut. La réalité des Français, c'est qu'aujourd'hui, les plus fragiles ont été touchés. Vous vous rendez compte ? Des bénéficiaires d'une pension d'invalidité à 1300 euros vont payer 300 euros de CSG en plus. Ces mêmes personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité qui eux-mêmes payent souvent des gens pour s'occuper d'eux. C'est vraiment une politique d'une injustice tel que c'est invraisemblable qu'il assume, ça ne changera rien. Ces gens qui ont été taxés indûment continueront à être en difficulté.
Et en même temps, pour reprendre une expression qui lui est chère, le président de la République assure que la fiscalité n'augmentera pas durant le quinquennat.
Ah bah écoutez, cette année 2018 démarre mal puisqu'on a déjà 4,5 milliards d'impôts en plus. Donc qu'il augmente pas l'année prochaine, nous verrons, mais ça me semble fortement compromis puisqu'il ne baisse pas les dépenses de l'État, plus 7 milliards d'euros en plus cette année. Comment voulez-vous qu'à un moment ou à un autre, il n'y ait pas une augmentation de la fiscalité? La taxe d'habitation qu'il brandit à chaque fois pour nous expliquer qu'il va augmenter le pouvoir d'achat car c'est la seule mesure qui éventuellement aurait pu être efficace, n'est elle même pas financée et c'est déjà moins que l'augmentation du gasoil. On va pas rentrer dans le détail des chiffres, mais c'est vraiment absolument illogique de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation des impôts. C'est plus d'impôts, plus de dépenses publiques, et rien justement pour mettre un terme à cette spirale infernale.
Pas de concession sur la SNCF, la réforme, a-t-il répété, est nécessaire. L'État reprendra une partie de la dette. Vous le soutenez sur ce point, sa fermeté dans sa volonté de réformer la SNCF?
Nous soutenons la réforme du statut des cheminots. Dans la réforme de la SNCF, il y a des choses qui nous questionnent, notamment les petites lignes et la reprise de la dette, parce qu'il a beau dire qu'il va la reprendre, on aimerait bien savoir comment il va financer cette reprise.
On ne sait pas d'ailleurs à quelle hauteur, parce qu'il dit une partie de la dette.
Et Laurent Wauquiez, hier, s'est exprimé et il l'a dit clairement que s'il avait été parlementaire, effectivement, il voterait cette réforme car nous allons évidemment soutenir tout ce qui va dans le bon sens pour la France.
Sur le mouvement étudiant, pour le président de la République, les étudiants sont souvent minoritaires parmi ceux qui bloquent les universités pour contester la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Vous êtes d'accord avec cette idée?
Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Qu'a-t-il résolu? Rien. On a détruit des facs, il y a des zones de non-droit en France. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'arrive même pas à faire régner l'ordre sur le territoire. C'est la même chose qu'à Notre-Dame-des-Landes, où c'est un véritable fiasco, puisque alors qu'il a abandonné le projet et déjà qu'il a piétiné la démocratie et le vote référendaire, et ben là, maintenant, il permet aux zadistes de rester juste après avoir rempli un formulaire, ce qui est absolument aberrant. Et puis pour ceux qui veulent pas, ils n'arrive toujours pas à les faire sortir. Et après, certains commentateurs appellent ça un acte d'autorité. Je vois pas où il y a une autorité quand on renonce une première fois, une deuxième fois, et puis qu'en plus, on fasse pas exercer l'ordre sur le territoire.
Le projet de loi asile-immigration est débattu cette semaine à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a rejeté hier soir l'hypothèse d'une suppression du délit de solidarité envers les migrants. Il y a aussi, a-t-il dit, des gens qui aident consciemment ou inconsciemment les passeurs. Cela, je ne veux pas les affranchir du délit de solidarité car ce qu'ils font est grave. Mais il y a des femmes et des hommes qui parfois sauvent des vies, qui font preuve d'humanité et dans leur cas, il se dit favorable à l'idée de l'adapter pour tenir compte de ce geste de l'humanité. Faut-il adapter le délit de solidarité aux circonstances?
Le délit de solidarité, pardon, mais c'est pas tout le sujet d'immigration.
Déjà, non, entendu, on appelle ça une partie.
On appelle ça le projet de loi asile-immigration, mais on ne traite que l'asile. L'année dernière, 262 000 titres ont été délivrés. On n'a jamais vu un taux aussi important d'immigration, plus 40% par rapport au quinquennat Sarkozy. Et là, aujourd'hui, on nous propose un projet de loi où on ne traite absolument pas de la question de l'immigration, puisqu'à aucun moment on nous dit combien d'étrangers nous pouvons aujourd'hui accueillir en France dignement. Alors après, on peut discuter effectivement de ce délit, mais c'est vraiment un écran de fumée par rapport à la réalité des difficultés liées à l'immigration.
Merci Laurence Saillet, bonne journée.
Merci à vous.